Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Vivante Église. Aujourd'hui, pour intervenant au micro, vous allez entendre un enseignant à la faculté de théologie de Toulouse, en paroisse, sur deux paroisses du diocèse de Toulouse, la paroisse du Saint-Esprit et de Saint-Paul. Bonjour Père Cyprien Comte.
Bonjour Nathalie.
Ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous allez nous parler de ce beau et grand prophète, on peut parler de grand prophète, dans l'Ancien Testament, celui de Jérémie qui est bien connu comme l'homme de douleur dont la vie a été marquée par de nombreux échecs, et vous nous direz. Pourtant, ses paroles, son attitude ont contribué à préserver la foi malgré des circonstances parfois désespérées. Est-ce qu'on peut dire que Jérémie a été ce prophète parfois incompris? Son message a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'Église. Est-ce que Jérémie est ce prophète incompris, Père Cyprien Comte?
Certainement pour une bonne part. Tout le monde n'est pas son ennemi dans le livre de Jérémie, mais il y a quand même beaucoup d'adversaires, même s'il y a aussi quelques personnes qui le soutiennent et que 2500 ans après, environ, eh bien nous lisons encore ses oracles.
Quelle est l'histoire de Jérémie? Très vite, son caractère, son tempérament, ses dons et ses charismes. Et voilà, en introduction et dans ses premières minutes de Vivante Église.
Jérémie, Yirmiyahu en hébreu, Yirmiya en plus bref, est né dans la région de Jérusalem, un village qui s'appelle Anatot, immédiatement au nord de Jérusalem, c'est la banlieue nord-nord-est. On peut encore voir un village arabe qui porte presque exactement le même nom. Et il naît pendant le 7e siècle avant Jésus-Christ. On est bien en train de parler d'un prophète de l'Ancien Testament. Voilà, et donc 7e siècle avant Jésus-Christ, et à vrai dire, on perd sa trace, on a l'habitude de dire, dans les sables de l'Égypte, au début du 6e siècle, alors qu'il est emmené par des gens qui s'enfuient du pays de Juda, alors dans de grandes difficultés politiques. Donc on peut dire que la période historique où il vit, et comme beaucoup de périodes, à vrai dire, dans l'histoire d'Israël, est très troublée. À la fois, il y a des difficultés d'ordre politique, et notamment international, puisque au milieu du 7e siècle, la région est dominée par deux grands empires qui sont au nord-est l'Assyrie, donc L'apostrophe, ouais. Puis Assyrie. Ouais. L'Assyrie qui mettra fin en 722 au royaume d'Israël, au nord. Et donc, un siècle plus tard, c'est encore la Syrie qui domine la scène internationale à l'époque de Jérémie. Et puis au sud, sud-ouest, après Gaza, si vous voulez, l'Égypte. Et donc, les deux superpuissances de l'époque sont d'abord la Syrie et l'Égypte. Et puis, la Syrie disparaît sous les coups de l'Empire babylonien. Et on associe plus souvent la prophétie et l'histoire de Jérémie à cet empire babylonien. On va voir pourquoi. En fait, à la fin du 7e siècle, donc en Mésopotamie, les Ninive et l'empire assyrien tombent, et c'est l'empire babylonien qui prend le dessus, même s'il restera encore un fort antagonisme dans la région entre les Babyloniens et les Égyptiens. On pourrait dire, en reprenant les mots de André Neher, que la politique en Juda, puisqu'il n'y a plus à ce moment-là de royaume d'Israël, c'est uniquement le royaume du sud, le royaume de Juda avec sa capitale Jérusalem, là, en fait ce petit royaume de Juda est un petit peu comme un lapin dans un terrier. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a à la surface des monstres qui se disputent la suprématie sur la région, et le royaume de Juda et quelques autres royaumes des alentours essayent de survivre en ne prenant pas trop de coups, si vous voulez. Mais on voit bien qu'en réalité, La Judée qui ne se tient pas complètement tranquille entre ces deux grands empires que sont donc les Chaldéens avec Babylone et les Égyptiens, les Pharaons, eh bien le royaume de Juda va finir par disparaître lui aussi en 587. Voilà un peu pour vous dire la scène politique internationale qui évidemment influe beaucoup sur la vie quotidienne des Israélites. Et donc Jérémie en donne un écho très fort dans son livre. On va voir qu'il donne une dimension théologique aussi aux événements politiques de la fin du 7e et surtout du début du 6e siècle.
Alors on y reviendra. Quel était son tempérament, son caractère
Le caractère de Jérémie. À la fois, c'est quelqu'un de très clairvoyant. On voit bien, le Seigneur lui parle à travers ces événements de politique internationale et puis aussi ce qui se passe dans le pays, sur lequel on reviendra peut-être, mais en tout cas, il est sensible. Comme tous les prophètes de son temps, il est quelqu'un donc qui voit l'action de Dieu présente dans les événements qui touchent l'histoire de son peuple. Et aussi, à vrai dire, dans ce qui concerne sa vie personnelle. Alors, c'est assez impressionnant de voir que Jérémie, qui, même si les lamentations dites de Jérémie ne lui sont plus attribuées par la communauté scientifique aujourd'hui, on les a mises, en fait, il faut dire qu'on les a, on a collé ces lamentations de Jérémie après le livre de Jérémie, et c'est pourquoi on les lui a attribuées, mais à tort, en fait.
Donc, il n'y a pas de lamentation de Jérémie.
Alors, ce n'est pas le livre des lamentations, en tout cas. Par contre, Jérémie va se lamenter, on appellera ça, par analogie sans doute, avec les confessions de Saint-Augustin, vous voyez. Alors, évidemment, c'est une appellation tardive, et peut-être que nous, en France, on pense aussi aux confessions de Rousseau. On a des passages qui disent le fond de l'âme de Jérémie et la manière dont il ressent intérieurement, douloureusement et spirituellement ce qui lui arrive et notamment les persécutions dont il fait l'objet. À vrai dire, Jérémie va être poursuivi même par les gens de son village, du village d'Anatote. Peut-être je peux vous lire quelques mots de Jérémie. On est au chapitre 15. Et alors, sa vie est tellement difficile qu'il dit à un moment « Malheur à moi, ma mère !» car tu m'as enfanté. Oui, à quel point il en arrive. Il se décrit comme homme de querelle, en hébreu c'est Ish, Riv, homme de querelle et de discorde pour tout le pays. On a envie de dire, mais pourquoi est-ce que les gens l'identifient comme un polémiste, comme quelqu'un qui leur cherche querelle? Et il explique, jamais je ne prête ni n'emprunte, pourtant tout le monde me maudit. Donc il y a l'adversité qui se déploie dans sa vie relationnelle avec ses concitoyens, on peut dire. Et après, il dit qu'il a des difficultés même avec le Seigneur. En vérité, Seigneur, ne t'ai-je pas servi de mon mieux? Ne t'ai-je pas supplié au temps du malheur et de la détresse? Et donc, on a bien une plainte de Jérémie qui s'adresse à Dieu et qui, dans certains passages du livre, l'accuse de mal le traiter. Vous voyez, à peine plus loin, il dit « Toi, tu le sais, Seigneur », c'est toujours le chapitre 15 du livre de Jérémie, « Toi, tu le sais, Seigneur, souviens-toi de moi, visite-moi et venge-moi de mes persécuteurs. » Alors, on pourrait développer cette question de la vengeance qui ne veut pas forcément dire ce que nous entendons par là. En tout cas, il évoque très clairement, ses persécuteurs. C'est quelqu'un qui souffre. Et non seulement il est originaire d'un village et il décrit des aspects de la vie du village. Alors quelquefois on entend, c'est la voix du fiancé et de la fiancée, c'est le bruit de la fontaine, c'est ce qu'il voit chez le potier, même si ça c'est peut-être à Jérusalem, qui n'était sans doute pas une très grande ville à l'époque. Et on sent bien que, même vous voyez, dans la vision inaugurale de son ministère, il voit une marmite bouillonnante que Dieu lui montre. Et alors c'est intéressant de voir comment tous ces aspects de la vie apparemment insignifiante, ou des aspects insignifiants de la vie quotidienne, pour lui en fait revêtent un sens théologique. Il est vraiment un prophète du Seigneur qui, à travers toute sa sensibilité, l'attention à sa propre vie, il recevra même l'ordre de garder le célibat et de ne pas participer aux activités de la société de son époque. Alors c'est assez impressionnant, on trouve cela.
Alors vous décrivez, permettez-moi, oui. Père Cyprien Comte, dans ce caractère de ce grand prophète incompris, homme de douleur, un personnage au fond hypersensible.
Oui. Vraiment, on dit cela. Hein, et quand on parcourt le livre de Jérémie, souvent, on le voit parce qu'on a aussi pas mal de données concernant ce qui lui est arrivé. Mais même ses sentiments et ses combats intérieurs avec le Seigneur. Et
donc, il lutte, en fait, intérieurement.
Oui, on voit
bataille,
un homme qui est vraiment dans le...
Il est tiraillé,
oui,
déchiré.
Oui, on en reparlera au sujet de sa mission, parce que le tiraillement ne concerne pas seulement sa vie personnelle, mais même le travail que Dieu lui donne, et dont, par moments, il aimerait bien être délivré. Voilà, c'est très impressionnant de lire cela. Et d'ailleurs, c'est assez réconfortant pour nous qui parfois vivons des difficultés dans notre propre vie et mission. Alors, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des juifs qui lisons les Écritures, on peut vivre des choses comme Jérémie et en fait s'y retrouver pour une part, même si nous n'avons pas le même caractère que lui.
Alors, vous travaillez depuis plus de 15 ans sur ce prophète, Jérémie. Pourquoi ? Un tel travail.
C'est vraiment, je pense, la providence. J'ai eu cette chance-là quand je suis parti faire des études bibliques chez les jésuites à Rome, que le doyen de la faculté ici à Toulouse m'avait dit à l'époque, quand tu reviendras de tes études, il faudra enseigner les prophètes. Et donc, j'avais cette chance-là que, en fait, peu d'enseignants, même dans le supérieur, ont de savoir, quand on part 3 ans avant, quel cours on va devoir donner. Et donc, j'étais particulièrement attentif au cours que j'ai reçu sur les prophètes. Et il se trouve que, par les hasards, si le hasard existe, du calendrier, eh bien, j'ai suivi un cours sur le prophète Jérémie, les chapitres 18 à 20, avec un salésien italien, le père Gianni Barbiero. Et le premier cours qu'il a donné, en quelque sorte, a décidé de ma vie académique. Je ne sais pas si ça durera, mais enfin, en tout cas, depuis 2007, je crois, je peux dire, où il a commencé le cours en parlant de Jérémie Chelpotier, et c'est là que j'ai trouvé mon sujet de thèse, à la première séance de cours sur Jérémie. C'est assez impressionnant.
Un coup de cœur.
Le Seigneur nous conduit par des voies inattendues.
Voilà, comme on dit parfois que ce sont les saints qui nous choisissent. Mmh. Est-ce que ce prophète vous aurait choisi ?
Eh bien, écoutez, c'est possible. En tout cas, j'ai la chance de travailler un peu sur Jérémie et surtout de faire travailler pas mal de monde sur Jérémie.
C'est toute une équipe qui vous travaillez ?
Vraiment, j'ai cette chance-là. Alors ici, à Toulouse, il n'y a pas beaucoup de spécialistes de Jérémie. Je pense qu'on peut travailler à bon niveau en examinant le texte de près avec 2 ou 3 ou 4 autres personnes. Mais je fais partie d'un réseau à la création duquel j'ai travailler effectivement, notamment suite à la crise du Covid, parce qu'en fait on s'est mis à travailler en ligne et à vrai dire tous les mois et demi, 2 mois, nous avons une séance de travail en ligne, en anglais souvent, français quelquefois, avec des spécialistes du livre de Jérémie ou de l'exégèse de l'Ancien Testament, des gens de toute l'Europe et un peu plus, puisque les deux collègues avec qui je dirige ce séminaire d'études sont un jésuite autrichien qui a publié des milliers de pages sur Jérémie. Et
Vous avez tout lu de ces publications?
Pas tout à fait, en plus c'est en allemand pour une part. Et une collègue américaine qui enseigne aux Pays-Bas. Donc ça fait un bon réseau en fait, et on est souvent 10, 15, 20 personnes en ligne pour travailler vraiment sur des points assez précis du livre de Jérémie.
Ce réseau est assez spécialisé sur ce prophète de l'Ancien Testament.
Vraiment. Mmh.
Un prophète qui vous semble actuel pour aujourd'hui,
oh,
le Père Cyprien.
Il y a beaucoup à dire.
Ah, oui.
Prophète en temps de crise, comme on a dit, c'est vrai pour une bonne partie de la littérature biblique, et puis je crois qu'on pourra y revenir, parce que c'est en fait, notre vie est aussi faite de crise, et c'est pas une nouveauté. Mais aujourd'hui, on sent plus que d'habitude l'actualité, oui, de la littérature biblique, et en particulier, je pense, de certains prophètes. Jérémie annonce des désastres, mais aussi l'espérance. Et j'espère qu'on pourra en reparler.
Oui, donc dans son livre, il y a aussi des relèvements et des restaurations.
Oui, tout à fait. Et des annonces de renouveau dans une situation où tout semble perdu.
Au fond, le prophète Jérémie n'est pas qu'un prophète de malheur.
Non. Alors, il l'a été largement. Mais on a notamment les chapitres 30 à 33 du livre qui ont une tonalité assez différente. Et à vrai dire, lui-même, malgré toutes les vicissitudes qu'il traverse, reçoit sans cesse la promesse de Dieu de le soutenir. Et on voit bien qu'en effet, il se sort de tous les mauvais pas où il est plongé, y compris l'histoire de la fameuse citerne, où d'une manière un petit peu improbable, c'est un eunuque étranger qui est à la cour du roi et qui en fait va venir le sortir de la boue dans laquelle il s'enfonce, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, il va traverser un certain nombre de malheurs, mais toujours Dieu va l'en sortir. Et même s'il semble, vous l'avez dit, même s'il semble mener sa mission prophétique vers l'échec, en fait, aujourd'hui encore, nous le lisons, et finalement, il sauve toujours sa vie, et il y a quand même quelques personnes qui l'entendent, puisqu'on a transcrit ces paroles, qu'on les a copiées, et que dans le monde entier, aujourd'hui, des millions de personnes lisent le livre de Jérémie.
Quels étaient, au fond, quand on parle de ce prophète, ses dons et ses charismes
J'ai envie de vous répondre en regardant dans le chapitre 1, qui est peut-être le plus célèbre, ou presque le plus célèbre de tous, ce qu'on appelle la vocation de Jérémie, où en fait, déjà, on voit un homme qui est comme les prophètes, comme tous les prophètes, je crois. Hein. Mais quelquefois, il y a des prophètes qui se trompent. Et d'ailleurs, Jérémie en parle. Il y a les combats avec les prophètes de mensonges.
Et puis,
de
oui,
mensonges,
en temps de crise, voilà, il y a les vrais prophètes et les faux prophètes dont
ça,
on
c'est
parle.
C'est assez impressionnant. Oui. Et en fait, Jérémie est vraiment, j'ai envie de dire, en prise directe avec Dieu. Vous voyez, on a pu dire que Jérémie, c'est un prophète comme Moïse. Parce que Dieu dit de Moïse, notamment quand il le défend contre son frère et sa sœur, qu'il a une intimité avec le prophète Moïse au temps de l'Exode, donc des siècles avant, dans l'histoire biblique, hein, qu'il lui parle face à face et il lui met ses paroles dans sa bouche. Et Jérémie, je crois que c'est sa première caractéristique, est vraiment quelqu'un qui est tellement intime avec Dieu que il dit les paroles de Dieu. Et même on pourrait dire, ça c'est assez remarquable, les spécialistes remarquent ça, il y a au moins deux passages du livre de Jérémie où dans l'hébreu, vous avez « paroles de Jérémie » et dans le grec, il y a « les paroles de Dieu ». Et on comprend qu'en fait, les paroles de Jérémie sont les paroles de Dieu. Parce que justement, même s'il se dispute avec Dieu quelquefois, en fait, il est vraiment un messager parfaitement fidèle. On parle quelquefois de Ifi, vous voyez, pour le son. Eh bien, on a vraiment quelqu'un qui... Il n'est pas quelqu'un qui répète servilement, mais il est tellement proche de Dieu qu'il peut dire les paroles de Dieu. Ça ne l'empêche pas de souffrir. Et en effet, dès le premier chapitre, oui. Dieu lui dit « Je t'envoie contre les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et tout le peuple du pays. » Vous voyez, c'est vraiment la fin du chapitre 1. Tu iras parler devant tout le pays. Et donc, Jérémie a une conscience très vive aussi de l'adversité qu'il va rencontrer. Peut-être d'ailleurs que quand il raconte sa vocation, il a en tête tout ce qui lui est déjà arrivé. Et on met l'introduction au début, mais comme les bons élèves le savent, quelquefois on fait l'introduction en dernier. Voilà. Et donc c'est peut-être bien ce qui se passe, au moins, voilà, il y a sans doute un certain nombre de textes qui sont antérieurs à cette introduction du grand chapitre 1. Et puis aussi, peut-être un dernier trait qui nous montre qui est Jérémie, c'est qu'il voit la marmite, il voit le rameau, et il comprend que Dieu lui parle. Et c'est vraiment une clairvoyance qui me semble devoir être mise à son crédit. C'est un don de Dieu, évidemment. Mais c'est aussi cet homme-là que Dieu a choisi pour dire son fait au peuple de Juda, annoncer l'espérance et mettre en garde contre la catastrophe qui menace.
Un prophète, vous avez parlé aussi de cette fidélité dans ce message et cette réponse que le prophète Jérémie donne à Dieu. Il bataille, mais il écoute. Il y a cette humilité du cœur du prophète. On en parlera certainement peut-être un peu plus tard. Je vous propose Percy Prien Comte, enseignant à la faculté de théologie et puis l'intervenant et spécialiste. Oui, on peut vous présenter comme spécialiste puisque vous dévorez depuis plus de 15 ans et vous étudiez en profondeur ce livre, qui est l'un des plus longs livres, je crois.
Le plus long. Hein,
le plus long.
Si on compte les mots.
Voilà. Alors, on vous retrouve dans quelques minutes après cette pause musicale. À tout de suite.
Concitoyens, nous sommes les siens, car
Vivante Église, Nathalie Cardon.
C'est la suite de cette émission consacrée à un des grands prophètes de l'Ancien Testament, avec pour intervenant au micro un enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, Père Cyprien Comte. On poursuit étape après étape. Vous avez dirigé une publication, vous m'en parliez hors antenne, d'un livre qui est paru aux éditions Parole et Silence, c'était en 2022. Il s'intitule « Vrai et faux prophètes ». Comment discerner au fond c'est la grande question. On est aussi avec vous depuis plus d'une vingtaine de minutes avec ce grand prophète, hein, Jérémie. Et c'est au fond, dans ces temps de confusion, de troubles, temps de crise mondiale, le temps aussi des vrais, mais malheureusement aussi des faux prophètes. Les faux prophètes à nos jours. Alors comment aborder et donner quelques pistes, hein, à ceux et celles qui vous écoutent, hein, et en particulier sur ce thème des prophètes, hein, des vrais et des faux?
Qui dit vrai? Ça, c'est une grande question. Et alors, en régime religieux, la question se traduit souvent par cette autre question. Comment savoir si quelqu'un est un vrai prophète, s'il parle vraiment au nom de Dieu, ou bien s'il invente ce qu'il dit, ou peut-être un certain nombre de gens d'ailleurs sont-ils persuadés de parler au nom de Dieu alors qu'ils débitent des mensonges? Et c'est assez impressionnant. Je ne vais pas donner d'exemple, mais je pense que les auditeurs en trouveront. À vrai dire, la question n'est pas nouvelle. Quand on regarde dans l'histoire du phénomène prophétique, dans l'histoire des religions, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, dans le petit royaume de Mari, on a des personnes qui, alors c'est le polythéisme, hein, qui prétendent parler au nom des divinités. Et on voit une prophétesse qui fait passer un message à un roi. Est-ce qu'il s'agit de Zimri-Lim à l'époque? Je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais c'est quand même de sa bibliothèque qu'on a le plus d'éléments qui parlent du prophétisme, hein, sauf erreur. Et alors on a un message qui dit « Je t'ai envoyé au roi cette parole de la prophétesse et avec, je te fais passer sa cordelette pour que tu puisses vérifier. » C'est-à-dire qu'on a pris un bout de la ceinture de la prophétesse pour pouvoir faire des tests afin... Alors, je ne vous dirai pas comment on fait les tests, je n'ai pas le film. Voilà. Et donc, vous voyez, la question n'est pas nouvelle. Il faut vérifier si quelqu'un qui est un messager est fiable. Vous voyez, aujourd'hui, quand on reçoit un courrier, on préfère que le courrier n'ait pas été décacheté. On a même peut-être parfois des faux messages qui prétendent venir de personnes qu'on connaît et qui arrivent dans nos boîtes aux lettres. Bref, voilà, je ne donne pas trop d'exemples contemporains et je reviens au prophète. Alors, avec Jérémie, c'est une des questions centrales qui se posent. Pourquoi? Parce que le message qu'il transmettait au nom du Seigneur, et la Bible nous le présente à juste titre comme un vrai prophète au nom du Seigneur, les messages qu'il transmettait étaient souvent inquiétants et on l'a parfois accusé de mentir. C'est très impressionnant de lire par exemple au chapitre 27 et au chapitre 28 du livre de Jérémie, il y a une histoire assez violente, hein, qui est arrivée au prophète Jérémie. Et en fait, on a donc une mission qui lui a été confiée au chapitre 27. Le Seigneur lui parle et lui dit « Fais-toi des cordes et un joug et mets-les sur ta nuque. » Puis il va devoir les envoyer au roi des royaumes alentour avec une commission, c'est-à-dire l'explication du joug, comme font souvent les prophètes quand ils commettent une action qui a un sens symbolique, ils donnent l'explication avec, et là c'est Dieu qui lui-même dit à Jérémie, et dit-leur comme explication, « J'ai remis tous ces pays aux mains de Nabucodonosor, roi de Babylone. » C'est-à-dire que le joug que Jérémie porte devient le signe de l'asservissement non seulement de Juda, mais aussi des nations alentour, c'est-à-dire de toute la région en fait, à l'empereur Nabucodonosor II, qui effectivement va étendre sa puissance sur une grande partie du Proche-Orient ancien. Et Jérémie enchaîne en disant, et ça touche exactement notre sujet, c'est les paroles du Seigneur, hein, « Et vous n'écoutez pas vos prophètes, devins, songes creux, enchanteurs, et magiciens qui vous disent « Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. Donc Jérémie, en recevant cette mission, doit aussi dire « Il y a des faux prophètes qui vous prédisent la tranquillité, mais ne les croyez pas, ils ne parlent qu'à partir des visions de leur cœur. » Ça, c'est notamment au chapitre 23 que Jérémie polémique contre les faux prophètes. J'avance un tout petit peu pour vous dire que après le chapitre 27, vous avez le 28. Jusque-là, ça n'est pas trop compliqué. Mais que se passe-t-il au chapitre 28 ? Le prophète, non plus Jérémie, mais Hanania, prend sur lui de contredire publiquement Jérémie et lui dit, en acte, que c'est faux de porter le joug en disant « c'est le roi de Babylone qui va vous prendre sous sa puissance ». Et il prend le joug que porte Jérémie et il le brise. Ce qui, soit dit en passant, a dû être assez spectaculaire parce qu'un joug, en général, c'est quand même assez difficile à rompre. Et donc le prophète Hanania parle dans le temple du Seigneur en présence des prêtres et de tout le peuple, donc début de Jérémie chapitre 28, en disant « Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël, j'ai brisé le joug du roi de Babylone. » Et il annonce donc que le Seigneur va délivrer son peuple, en fait le peuple de Juda, de l'emprise de Nabuchodonosor. Et Jérémie lui dit, « Eh bien, Amen, qu'ainsi fasse le Seigneur. » Si c'était possible, sous-entendu, vous voyez, et qu'il rapporte tout ce que Nabuchodonosor a pillé dans le temple de Jérusalem, qu'il le rapporte de Babylone. Et il dit, en fait, non. Je raccourcis un peu le récit pour ne pas lasser les auditeurs, hein, mais en fait, non, ce n'est pas ce qui va se passer, mais le Seigneur vous dit, le joug de bois que tu as brisé, je vais le remplacer par un joug de fer. Et donc, on est vraiment dans la polémique entre les prophètes. Et nous qui lisons la Bible, nous voyons bien que la Bible nous dit que Jérémie est un vrai prophète qui prononce les paroles de Dieu et qu'autour de lui, tout le monde n'est pas un prophète de mensonge, mais qu'il y en a un certain nombre. Donc, on voit ces tensions à l'intérieur du monde religieux et des gens qui prétendent parler au nom du Seigneur et qui parfois utilisent les mêmes expressions. Vous voyez, quand Hanania dit « Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, Dieu d'Israël », on croit entendre parler un prophète authentique. Donc la question est vraiment difficile et Jérémie va s'y engager corps et âme. C'est sans doute d'ailleurs seulement la postérité qui reconnaîtra qu'il est un vrai prophète. On avait au chapitre 26 menacé de le tuer en disant « Jérémie, tu prophétises contre le temple, tu dis que la ville elle-même va être détruite, tu vas mourir ». Et finalement Jérémie n'est pas tué parce que quelques-uns disent « mais il nous parle au nom du Seigneur ». Et s'il avait dit la vérité ? Et donc Jérémie va sauver sa vie, alors que d'ailleurs, à la fin du chapitre 28, c'est le jugement de Dieu, entre guillemets, hein, le prophète Hanania, son adversaire, mourut cette année même au septième mois. Point, et on passe à autre chose, vous voyez ? Et donc, tant qu'on est vivant et que les gens élèvent la voix, il est difficile de savoir qui dit la vérité et la Bible ne donne pas de recette toute faite. Dans ce livre que vous avez évoqué, hein, où j'ai eu la chance de rassembler les travaux de mes collègues de la faculté de théologie et de quelques invités prestigieux, on a vraiment travaillé en détail cette question sans la trancher. Donc faut le lire pour ceux qui s'intéressent et qui sont prêts à lire un livre un petit peu exigeant, mais je crois que mon introduction est lisible. Voilà, il faut se reporter à ce livre « Vrais et faux prophètes » qui est disponible sur les plateformes de vente.
Oui, et puis en podcast sur cette émission, je donnerai un peu les références qui est paru donc dans « Parole et silence »,« Vrais et faux prophètes », comment discerner si on devait un peu actualiser ce prophète Jérémie en 2024, il y a quelques points communs.
Oh là là.
Des crises, des troubles.
Est-ce qu'on peut parler justement du contenu du livre un tout petit peu pour dire combien il est actuel. Je le dis en un instant, mais il me semble que pour schématiser, on pourrait décrire la prédication de Jérémie en trois mots. Le premier mot, c'est conversion. Jérémie invite le peuple à revenir à Dieu, à écouter la loi du Seigneur et à la mettre en pratique. Le deuxième mot, c'est désastre. Sans doute, cela ne nous fait pas plaisir d'entendre ce mot, et pourtant il est très actuel. Jérémie annonce au peuple de Juda qu'il va être conquis par l'Empire babylonien, et déporté. C'est un châtiment pédagogique, explique-t-il, que Dieu inflige au peuple pour lui permettre de revenir, puisqu'il ne veut pas sans y être forcé. Et puis le troisième mot, quand même, c'est espérance. On dit souvent que dans le livre de Jérémie, les chapitres 30 et 31 sont un livret de la consolation. Les spécialistes disent même que ce rouleau a peut-être connu une existence indépendante avant d'être rattaché au livre de Jérémie. Et donc, avec ces trois mots, voyez, prédication de la conversion, annonce du désastre, donc annonce conditionnelle d'abord, et puis annonce sans condition, disant ça c'est ce qui va se produire, tout cela en fait n'empêche pas Jérémie d'annoncer une espérance, et même, on aura peut-être l'occasion d'en parler, et même la nouvelle alliance que Dieu promet de conclure avec son peuple. Alors nous enregistrons à Toulouse, et c'est bien de dire ça, de citer le père Frédéric Larousse, que quelques-uns connaissent, il me disait, mais oui, le verset le plus toulousain du livre de Jérémie, c'est Jérémie 31:31, où Dieu annonce par le ministère du prophète une nouvelle alliance. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le contenu du livre, et ça en fait vraiment une lecture extrêmement actuelle, je crois.
Alors oui, puisque vous parlez de lecture et d'une lecture de ce prophète Jérémie actuel, c'est l'un des livres les plus longs parmi tous ces prophètes, qui semble, dans un premier mouvement, Père Cyprien Comte, un peu indigeste, hein, parce qu'on pourrait avoir une approche de ce prophète, un prophète de malheur, de désastre, mais il y a aussi, vous venez de le nommer, toute l'espérance, aussi proclamée par ce prophète Jérémie. Comment s'y prendre, hein, pour goûter, pour se plonger dans le livre complet du prophète Jérémie? Quelques clés, Père Cyprien Comte.
Le prophète Jérémie, c'est vraiment un amoureux de la parole de Dieu. Il n'est pas facile, comme pour beaucoup de livres bibliques, autant on peut lire l'un ou l'autre évangile et parfois ne pas se trouver trop en difficulté. Je crois que pour lire le livre de Jérémie, il vaut mieux avoir un tout petit peu ouvert d'autres livres bibliques avant. Vous voyez, ceci dit, il y a des chapitres qui sont tout à fait lisibles. Voilà, si vous lisez le chapitre 1, c'est un bon fronton à l'entrée du livre qui résume d'ailleurs une bonne partie de la prédication et des aventures du prophète Jérémie. Ce n'est pas les aventures de Tintin, mais je crois qu'on peut effectivement lire dans le livre qui porte son nom les aventures de Jérémie. Et puis je dirais peut-être aussi pour l'auditeur qui s'intéresse mais qui se dit « bon, ce n'est pas très facile d'ouvrir le livre sans autre guide », il me semble qu'une introduction qui vient de paraître par mon collègue le père jésuite Erwan Chotti, qui s'appelle « Le livre de Jérémie », donc le père Erwan Chotti, s'est paru au CERF dans les éditions, dans la collection, pardon, Mon ABC de la Bible, et c'est une introduction vraiment très lisible. C'est pas du tout réservé aux étudiants de théologie ou aux professionnels, et cette série d'ailleurs donne de très très bonnes introductions dans la Bible, avec en particulier, et c'est très accessible pour les auditeurs, des lectures thématiques. C'est-à-dire vous avez à la fois dans cette collection, qui est en train de décliner petit à petit toute la Bible, hein, à vrai dire. Ça fait quoi? Ça fait 6 ou 8 ans maintenant que Chantal Régnier a lancé cette collection. Et on y trouve notamment dans chaque livre 6 brefs chapitres qui abordent une thématique et qui permettent de traverser l'ensemble d'un livre ou d'un corpus biblique, en l'occurrence ici du livre de Jérémie. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette introduction du père Erwan Chotti, C-H-A-U-T-Y, qui est paru en 2022, je crois aussi.
D'accord.
Mais voilà, c'est un grand spécialiste du livre de Jérémie. Il publie beaucoup et c'est très très lisible.
Donc il y a matière à travailler, lire et au fond rendre accessible la lecture de ce prophète.
Oui, hein,
vous avez parlé aussi et de cette publication que vous avez dirigée, qui est parue en 2022. Dans Paroles et silences, vrais et faux prophètes, comment discerner? Parce que quand on parle de ce prophète avec vous aujourd'hui dans cette émission Vivante Église, on réalise ô combien c'est aussi un prophète pour aujourd'hui. Hein, vous nous le direz,
hein? Oui, ça vraiment, un prophète qui nous remplit à la fois de... Je crois que la lecture de Jérémie nous remplit de force quand on voit les péripéties qu'il a traversées, et d'espoir même quand nous sommes dans une situation qui semble sans issue, parce que lui-même a été vraiment plusieurs fois menacé de mort, où les gens ne voulaient pas l'écouter.
Puis il a connu ces moments de désespoir.
Oui,
de
et même le désespoir, oui. C'est très impressionnant. Quand on lit les chapitres 11
à
20...
Il a pleuré,
ah oui, alors ça, il dit même que Dieu pleure. C'est assez impressionnant. On a un ou deux passages du livre de Jérémie où il est question des pleurs de Dieu, et notamment sur un royaume qui n'est pas celui de Juda, mais sur une nation païenne, qui donc n'était sans doute pas tout le temps une alliée de Juda, sur le royaume de Moab. Donc vous voyez, ce royaume qui est à l'est de la mer Morte, et il y a à la fin du livre de Jérémie, en tout cas dans les éditions que nous lisons en général, traduites sur l'hébreu, on a des oracles contre les nations qui disent aussi les malheurs que Dieu va infliger non seulement à Juda, mais aux nations alentour. Et on voit que Dieu se lamente en fait sur ces malheurs alors qu'il semble les infliger lui-même. Vous voyez, c'est assez impressionnant de voir la théologie qui est derrière et qui est assez complexe, à vrai dire. Mais il y a encore de quoi travailler pour les spécialistes. Et puis, ce sont des textes poétiques pas toujours faciles, mais qui a dit que la Bible était toujours facile à lire, ou bien qu'elle nous donnait des réponses toutes faites et faciles d'accès à toutes nos questions. Par contre, si on veut entrer dans le questionnement humain, théologique, et notamment face à la question du malheur, on peut lire le livre de Jérémie de bien des façons et y trouver un aliment qui nous nourrit, qu'il faut mâcher, qu'il faut travailler effectivement pour en tirer la moelle. Mais qui nous permet, comme le prophète Jérémie lui-même, en fait, hein, de traverser les épreuves de la vie.
Et d'être fortifié.
D'être fortifié, de rester fidèle, même si quelquefois on est tenté de désespérer. En fait, Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis.
Le prophète Jérémie, c'est un prophète, malgré les tentations, les épreuves, fidèle.
Oui.
Fidélité du prophète Jérémie.
On peut dire cela vraiment, que malgré toutes les tentations internes et les adversités qu'il rencontre à l'extérieur, il est resté un auditeur fidèle et un transmetteur, un témoin de la parole de Dieu.
Un transmetteur et un témoin de la parole de Dieu.
Vraiment, oui. Il a été fort dans l'épreuve, même si quelquefois il n'en voyait pas le bout.
Et tout en étant, on entend bien tout au long de l'émission, la force et à la fois la fragilité de ce prophète.
C'est assez impressionnant.
C'est grand paradoxe, comme la mission au fond, on en parlera la semaine prochaine. Père Cyprien Comte.
Oui,
un dernier mot, et c'est ainsi que nous achevons cette émission, cette première émission consacrée à ce prophète de l'Ancien Testament.
Lire ou entendre le livre de Jérémie, c'est vraiment rencontrer un homme sensible qui en quelque sorte ne fait qu'un avec la parole de Dieu, même si quelquefois il se bat contre elle, et il est comme poussé de l'intérieur par cette nécessité impérieuse qui fait qu'il ne pourra pas se soustraire à cette mission d'annoncer la parole, parole qui le fortifie, qui le garde et qui l'amène paradoxalement au succès.
Merci infiniment pour cette intervention, Père Cyprien Comte, et je vous propose de vous retrouver dès la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de ce grand prophète dans l'Ancien Testament. Nous verrons plus en détail cette mission de ce prophète Jérémie. À la semaine prochaine.
Merci, au revoir Nathalie.
Même lieu, même heure, et merci.